chapitre 1. Le message ce matin, c'est un nouveau moi, la compassion de la grâce et la vérité. Je suis vraiment content pour la direction du Seigneur pour le message du matin. Ça va être, le message, expérimenter la compassion de la grâce et la vérité. C'est bon d'expérimenter la compassion. Et on va pas lire le passage parce qu'on a lu au complet déjà ce matin. Mais n'est-ce pas bon d'avoir un Dieu de compassion? On a un Dieu de compassion. La parole de Dieu nous dit à quel point notre Dieu est un Dieu de compassion. Il a compassion de nous. Il y a des versets qui nous disent ça. On va voir ça dans la parole pour introduire le message. Dans Psaume 116, verset 5, ça dit « L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. » Psaume 103, verset 8 et verset 13 « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. » Lent à la colère et riche en bonté, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 145, 8 et 9, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers nous, envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. C'est bon d'avoir un Dieu de compassion, mais on va voir dans l'introduction qu'est-ce que ça veut dire la compassion. Parce qu'on peut parler des choses, on peut parler des mots, mais sans comprendre vraiment la significance des mots, vraiment qu'est-ce que ça veut dire même dans nos vies. Comment expérimenter la compassion de Dieu? C'est ça qu'on va voir à travers le passage qu'on a lu dans 1 Samuel 1 ce matin. Mais même Jésus a démontré la compassion au cours de son ministère. On voit souvent dans les Écritures, dans les Évangiles, quand Jésus, dans son ministère, il y avait la compassion pour des gens. Matthieu 9, ça nous dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Il fut ému de compassion. Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire la compassion? Tu sais, on apprend des mots. Des fois, moi, j'apprends l'anglais par le français des fois, spécialement quand quelqu'un me demande « qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là en anglais? » Puis moi, bien, je pense que je sais ce que ça veut dire, mais pour définir le mot, un mot que j'ai appris comme pasteur Watt et chez nous, c'était « highfalutin ». Il y a quelqu'un qui connaît qu'est-ce que ça veut dire en anglais « highfalutin » ? C'est comme, notre autre anglophone connaît, c'est comme prétentieux ou pompeux. C'est quelqu'un qui est comme vraiment prétentieux de dire des choses, des hauts langages, des mots que les gens, des paysans ne comprennent pas. C'est highfalutin.
C'est avec une très bonne estime de soi.
Oui, absolument. Un bon estime de soi. Excellente façon. Mais pour moi, j'avais dit ça à Pastor White, il dit, qu'est-ce que ça veut dire highfalutin? J'ai dit, bien, je comprends, mais comment l'expliquerais-je? Alors, la compassion, qu'est-ce que c'est la compassion? Oui, on sait la compassion, mais qu'est-ce que c'est pour vrai? C'est le sentiment de sympathie envers les maux d'une autre personne. C'est ce que le dictionnaire dit de compassion. OK, mais on a un autre mot, sympathie. Qu'est-ce que ça veut dire, sympathie? D'être sympathique envers quelqu'un. Ça veut dire le fait de ressentir et de participer à la joie ou la douleur de quelqu'un. C'est de s'identifier aux souffrances des autres. La compassion, d'avoir les sentiments de sympathie, de ressentir et participer à la joie ou la douleur de quelqu'un. Comme Hébreux 4, verset 15 nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir, le même mot-là, compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Le Seigneur nous comprend, il a sympathie, il peut ressentir nos joies, nos douleurs. Il y a compassion, les sentiments de sympathie. Mais ça va plus loin que ça. Je n'ai pas vraiment trouvé ça dans ces mots exacts, dans les dictionnaires, mais moi, je vois dans les exemples d'écriture que la compassion, ce n'est pas juste les sentiments de sympathie. Mais c'est les sentiments de sympathie qui poussent à l'action, qui nous fait faire de quoi. Parce que, imaginez-vous, en Matthieu 14, on entend, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Ça ne dit pas, « Il fut ému de compassion. Oh, j'ai la sympathie pour eux autres. comme on dit, pauvre petit loup, puis il tourne le dos, puis il fait rien. Ça, c'est pas la compassion, parce que la compassion, c'est d'avoir les sentiments de sympathie qui nous poussent à faire de quoi? À aider, à être impliqué dans d'aider les besoins que quelqu'un a. Marc, chapitre 1, 40 et 42. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, disait « Tant pis pour toi. » Non. Ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Mais on voit pourtant, dans le livre de Jacques, une illustration, si quelqu'un n'a pas la compassion, je vais dire comme ça. Jacques 2, 14 à 17, se dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » Ou peut-être on peut dire, « S'il a la compassion sans l'action. » Si un frère ou une sœur sont nus et manquant de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au cœur à croire, cela sert-il. Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. On pourrait appliquer la même chose, la compassion. Ce n'est pas juste de sentir des sentiments de « Oh, pauvre petit toi », mais c'est d'avoir l'action. Et c'est ça, la compassion, on va voir aujourd'hui par le passage qu'on a lu. Alors la question, avez-vous expérimenté la compassion de Dieu? Et comment peut-on l'expérimenter dans nos vies? On va voir quatre décisions à prendre, quatre reconnaissances même d'avoir pour expérimenter la compassion de Dieu. D'abord, on va voir dans les premiers versets de notre texte dans 1 Samuel, chapitre 1, mais avant d'aller là, on va prier. Seigneur, merci que tu es un Dieu compatissant, que tu prends soin de nous et tu te soucies de nos besoins, mais dans le passage qu'on va lire, Seigneur, je ne veux pas que ce soit juste des mots encourageants, mais que ce soit des vérités de toi pour nous fortifier dans notre foi, dans notre marche chrétienne. Et pour ceux qui vivent la souffrance ou vivent des choses, qui puissent expérimenter ta compassion dans leur vie. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans la pratique de la vie chrétienne? Je prie tout ça, Seigneur, que tu puisses être celui qui parle, celui qui prêche le message ce matin par ton esprit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. La première décision, la première chose pour expérimenter la compassion de Dieu, c'est de reconnaître la bénédiction des fardeaux. Reconnaissez la bénédiction des fardeaux. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bien, on voit dans l'histoire, vraiment, Anne qui vivait l'épreuve, la souffrance. On va voir ça. On connaît l'histoire. Anne, elle n'avait pas d'enfant, mais l'autre femme de Elkana, Penina, elle avait des enfants. On voit dans verset 4, quand ça dit que Elkana a donné des portions à Penina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. C'était probablement 4, 5, 6, peut-être même 7 enfants, parce que dans l'époque, il y avait beaucoup d'enfants. Et moi, je ne peux pas comprendre ça parce que je suis un homme, mais des femmes, n'est-ce pas, c'est quelque chose, étant une femme, un désir dans le cœur d'avoir des enfants. Moi, je ne comprends pas, mais je me demande. C'est quelque chose de bienfaisant d'avoir des enfants. Même à l'époque, d'avoir les enfants était vu comme la bénédiction de Dieu. Si quelqu'un avait des enfants, Dieu m'a béni, j'ai des enfants. Fait que d'avoir pas des enfants, c'était comme, qu'est-ce qui va pas dans ma vie que j'ai pas des enfants? Même psaume 127, verset 3, ça dit, « Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » En anglais, ça dit « c'est sa récompense ». C'est direct une bénédiction de Dieu d'avoir des enfants. Alors, on voit une fardeau dans la vie d'Anne. Elle n'avait pas d'enfants. Elle voulait avoir des enfants, mais elle n'en avait pas. Ça dit même, elle n'en avait point. Pas de tout. Elle n'avait pas des enfants, mais on ne peut pas être presque pas des enfants, soit tu as ou tu as pas. Mais c'était pas juste qu'elle n'avait pas des enfants, Elkanan. Puis on voit, je pense, dans l'histoire à quel point c'est pas bon d'avoir deux femmes parce que il était de la chicane dans la cabane. Pour vrai. Pour vrai. Mais on peut nous mettre dans l'histoire. On parle juste de lire des mots, mais check ça. Ça dit, verset 6, « Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. » En anglais, le mot utilisé, c'est « son adversaire, son ennemi. » Le fait que Elkanah, il avait deux femmes, ils étaient des rivales, des adversaires, des ennemis. Puis l'un n'avait pas des enfants, l'autre avait des enfants. Puis ça dit que, effectivement, elle l'affligeait. « Hey Anne, qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu occupée? Oh, t'as pas des enfants. C'est vrai, t'as pas des enfants. Hey, est-ce que tu pourrais regarder mes enfants pour que je puisse faire de quoi? Hey, merci. » Elle était comme ça. Elle était tannée comme ça contre Anne. Elle, ça dit, prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Son adversaire, sa rivale, Peninna, elle avait ce qu'Anne voulait et l'utilisait comme une arme contre Anne pour l'affliger. C'était la souffrance, vraiment, dans la vie. Mais même dans la maison de Dieu. Ça dit dans verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Peninna la mortifiait de la même manière. N'est-ce pas? C'est un fardeau, c'est une souffrance que dans l'Église, des fois, il y a la chicane. Moi, je ne vois pas dans notre Église, je rends gloire à Dieu pour ça, mais des fois, à l'Église même, tu peux avoir des problèmes. Et c'est ça qui s'est passé. On est allé pour adorer Dieu, pour louer le Seigneur, le Dieu des armées. Il est nommé, l'Éternel des armées, il est nommé dans le passage. Puis à l'Église, mettons, la rivalité, merci, qui était là, qui était souffrant, ça faisait mal. Et on voit aussi que Dieu l'a permis. Dieu l'a permis, ça dit, deux fois, ça dit, l'Éternel avait rendu stérile. C'était par la main de Dieu qu'elle n'avait pas enfant. Et à cause de ça, vraiment, elle a vécu l'affliction de l'autre femme de son mari. Ça allait mal dans sa vie, vraiment. Au point où est-ce que, quand il était là à l'église pour célébrer, c'était les fêtes pour les Israélites. Ils mangeaient et buvaient, c'était une célébration de l'Éternel. Mais ça dit, elle pleurait et ne mangeait point. Elle était aussi attristée de ne pas être capable de manger. Mais pourquoi je dis de reconnaître la bénédiction des fardeaux? La bénédiction quand ça va comme ça. Pourquoi c'est une bénédiction? Parce que Dieu le permet. Il permet les souffrances, les épreuves dans nos vies afin de nous rapprocher de lui. On voit vraiment, parce qu'on va arriver là, tu peux, mais versets 9 et 10 et suivant, qu'elle priait. Elle a porté ses fardeaux vers Dieu, mais c'était exactement à cause des fardeaux, à cause des souffrances qu'il a amené à Dieu. Dans la souffrance, dans la douleur dans son cœur, qui a poussé vers Dieu, qui a fait, comme ça dit, Pasteur Roy a dit, « crowded to Christ », le fait que les épreuves dans nos vies qui nous poussent vers Dieu, qui nous fait, par exprès de Dieu, de la découvrir. C.S. Lewis a dit, « La douleur insiste pour quand s'en occupe. » Dieu nous chuchote dans nos plaisirs. Il parle dans nos consciences, mais crie dans nos douleurs. C'est son porte-voix qui réveille un monde sourd. On voit aussi Jérémie dans le livre de Lamentations, des versets qu'on connaît bien. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais ça ne commence pas avec ces mots-là. Ça commence avec verset 18, « Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça ne va pas bien. Puis, dans le contexte, Jérémie qui voyait Jérusalem qui était détruit, qui était en tribulation par leurs ennemis, même le châtiment de Dieu d'avoir quitté Dieu, ça va vraiment mal. Mais il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra sur les terres et silencieux. Puis on va skipper vers les versets. Ça dit, car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Dans cette histoire de Jérémie en lamentation, c'était à cause des souffrances, c'était à cause des fardeaux, à cause des choses qui allaient mal qui l'a poussé vers Dieu, pour découvrir ses compassions, pour découvrir qu'il est bon, pour découvrir pour nous des chrétiens la vie de Christ. 2 Corinthiens 4 nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. N'est-ce pas quand on mange quelque chose qui est sucré, ah, ça fait du bien de manger du sucre. Des fois, trop de bien de manger des choses sucrées. Mais je ne pouvais pas penser une illustration parfaite pour ça. Des fois, tu sais, quand on brosse les dents, puis on mange quelque chose de sucré, c'est moins sucré parce qu'on vient de brasser les dents. Mais d'après avoir mangé quelque chose sûr ou amer, les choses sucrées sont plus sucrées. Et c'est ça l'idée, que dans la souffrance, ses compassions sont autant plus doux dans nos vies. Il n'y a pas de compassion sans la souffrance. C'est là qu'on découvre le Dieu de compassion par la souffrance. Mais il n'y a pas de paix sans la peur. Si c'était jamais des choses épeurantes dans la vie, c'est quoi la paix? La paix, c'est pas juste que tout va bien. Si tout allait bien, il n'était jamais les problèmes, c'était jamais le péché dans le monde. Pourquoi parlerons-t-on de la paix? Parce que la paix, c'est la paix qu'on expérimente à travers les peurs. Il n'y a pas la consolation sans l'affliction. Il n'y a pas la compassion sans la souffrance. Dans le sens que si tout allait bien dans le monde, si on n'avait pas des choses mauvaises pour comparer les bénédictions, la compassion de Dieu, c'était juste la vie est beau, il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de choses qui vont mal, alors la compassion, mais ça va bien. Il n'y a aucune mal pour avoir besoin de sa compassion. Et pour nous, on a expérimenté ça. J'ai fait un post à Facebook aujourd'hui parce que Elisabeth est 33 semaines et 3 jours enceinte avec le nouveau. Et c'était sa même date, Noah, notre fils, qui est mort à 33 semaines, 3 jours. Mais à quel point on a expérimenté la consolation de Dieu? À un niveau bien plus grand dans la souffrance. On a découvert bien plus de Dieu. On a dû passer par des moments difficiles pour le découvrir. C'est ça, la bénédiction des fardeaux. On en a besoin. Et même, j'ai réfléchi à ça, même la mort de Jésus n'a pas de sens sans le péché. Sans la mort, sans le fait qu'on avait besoin d'un sauveur. Pourquoi Jésus est mort? Si tout allait bien dans le monde, pourquoi on a besoin de son amour, de sa mort pour nous? C'est à cause du péché. Et grâce, on ne va pas dire nécessairement grâce à péché, mais le sens que sans la chute, sans des choses, on n'aurait pas besoin d'un sauveur. C'est pour ça que c'est quoi le mot que je cherche? La conviction dans le cœur d'être un péché est si important. Parce que si on n'est pas un pécheur, pourquoi on a besoin d'un sauveur? Mais dans les choses qui font mal, qui sont souffrantes, qui sont douloureuses, à quel point Dieu est même plus grand, plus compatissant, plus doux dans nos vies, grâce aux souffrances. Alors, reconnaissez la bénédiction des fardeaux, mais pas juste dans le sens de reconnaître, de voir, de réaliser, mais aussi d'être reconnaissant pour des fardeaux, d'être reconnaissant pour des souffrances. Et ça, c'est bizarre un peu comme être humain, de dire, Dieu, je te remercie pour ce qui fait mal. Je te remercie pour ce qui est dur dans la vie. Je te remercie. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que Dieu a ordonné pour nous faire le découvrir. Alors, la foi est la clé. Est-ce que vous acceptez vos douleurs, vos fardeaux, comme étant les moyens de Dieu pour vous approcher de lui? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous êtes reconnaissant de « Merci Seigneur, tu m'as donné telle épreuve. » On a vu une épreuve ici dans notre passage pour Anne, mais c'est exactement ça qui a poussé vers l'autel, d'amener les problèmes, les fardeaux aux pieds de Dieu. C'est exactement ça qui nous pousse vers lui. Reconnaître la bénédiction des fardeaux. Mais deuxièmement, ça fait la suite naturellement, remettez vos fardeaux aux pieds de Dieu. C'est ça qu'Anne a fait à cause des souffrances qu'elle a vécues. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » En fait, elle avait la foi à cause des souffrances, à cause des choses qui l'a poussée vers Dieu, de les donner entre les mains de Dieu, de les lâcher prise, lâcher le contrôle, de dire, « Dieu, je te fais confiance. » Et on voit vraiment l'amertume dans l'âme, et c'est important à voir que ce n'est pas qu'elle était amère, mais c'était pas, et comment j'ai dit ça, elle n'exprimait pas l'amertume, mais elle l'expérimentait. C'est une différence entre de l'exprimer, l'amertume, d'avoir une attitude d'amertume ou de ressentir des choses amères dans nos vies. J'ai lu ça d'un commentaire, ça dit « Se plaindre de Dieu, être amer envers Dieu est un péché. Mais se plaindre à Dieu de votre douleur, de verser vos sentiments d'amertume, est un acte de foi. C'est un moyen donné par Dieu pour vous permettre de vous affliger, de traverser votre vallée avec Dieu. » Dans le passage, l'amertume, ce n'est pas un ressentiment tenace à l'égard de Dieu, ni un refus de pardonner aux autres. Il s'agit de l'amertume de l'âme, de la douleur intérieure résultant d'une souffrance prolongée à plusieurs niveaux qui devient désagréable. C'est le fait de ressentir, pas d'exprimer, mais de vivre à cause des souffrances, l'amertume, mais simplement de la donner à Dieu. Et ça, c'est une bonne chose dans la vie. Pas de dire, « Dieu, je t'amère à toi », mais dire, « Dieu, je veux le donner à toi. Je ressens comme ça. » Dieu le sait déjà. Tu peux le dire comment tu ressens. Puis c'est une bonne chose à dire, d'être honnête avec Dieu, que Dieu... Puis c'est ça que Dieu veut, qu'on laisse les choses à lui. On approche la grâce. C'est ça, la grâce. De donner nos problèmes à lui, de recevoir ce qui est bon de lui. On va voir ça dans un instant. Mais remettre vos fardeaux aux pieds de Dieu. Comme ça dit dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » En nouveau, Hébreux 4, verset 15 tantôt, le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, Mais verset 16, ça va plus loin. À cause de ça, à cause que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Est-ce que vous allez à Dieu avec vos souffrances, avec vos problèmes, avec ce qui fait mal, avec tout ce qui brasse dans ta vie? Rends grâce à Dieu pour ces choses, parce que c'est exactement ce que Dieu a voulu dans ta vie pour te pousser vers lui, pour que tu puisses les remettre à ses pieds, pour que tu puisses être secouru dans vos besoins, comme ça dit dans verset 16 de Hébreux 4. C'est un acte de foi, de reconnaître que les fardeaux sont par exprès de Dieu pour aller vers lui, puis de les remettre, d'aller en prière comme Anne faisait ici dans notre texte. On ne va pas tout lire, mais on a vu qu'elle était si longtemps, verset 12, dans prière. Même Élie pensait qu'elle était ivre parce qu'elle versait les sentiments d'amertume dans son cœur à Dieu. Ça avait l'air de fou, vraiment, à quel point elle était au pied du trône de la grâce. Est-ce qu'on donne tous nos problèmes à Dieu? Puis on voit d'expérimenter la compassion de Dieu, c'est exactement ça, de reconnaître, de remettre, mais troisièmement, de recevoir la grâce de sa compassion. C'est quoi la grâce? On dit que la grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas. C'est ça, le salut, c'est grâce. On ne méritait pas le salut, on ne mérite pas ce qui est bon de Dieu, mais il nous donne dans sa grâce. C'est tout de lui. C'est pour ça que même la grâce d'être sanctifié par la grâce, de vivre par la grâce, c'est le fait qu'on ne mérite pas que Dieu soit en nous pour vivre sa vie en nous. On ne mérite pas. Mais la grâce, c'est le fait que c'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. C'est sa grâce parce qu'on n'est pas digne de ça. Mais c'est sa grâce. Mais on voit ici que, tout à fait, Anne a reçu son vœu, son fils. Elle l'a reçu. Jacques 1, 17, ça dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquelles il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Psaume 37, 25 et 26. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. » Alors oui, on voit, je ne veux pas aller trop loin dans ça, parce que oui, tout à fait, elle a reçu Samuel. Ça, c'est la grâce. Mais le fait qu'elle a reconnu le besoin, elle a remis, puis elle était là pour recevoir, juste de recevoir ce qu'elle ne méritait pas. Mais c'était bien plus que juste ce qu'elle demandait dans la prière de son fils. Parce que dans la grâce, on recevoit tout ce qui est bon de lui. Vois verset 18. Parce que Élie reprit la parole 17, il dit « Va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Puis elle dit dans la fin de verset 18, « Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. » Elle était transformée dans la prière. Elle a reçu non seulement l'exaucement de sa prière, de recevoir le Fils qu'elle voulait, mais elle a reçu la grâce d'être en paix. Elle a reconnu qu'elle avait cette fardeau qu'elle vivait. Elle a mis entre les mains de Dieu, puis elle s'en alla en paix. C'est ça la grâce, que je peux donner ce qui fait mal, mais peur à Dieu, il me donne sa paix. Je peux donner l'amertume, il me donne l'allégresse. Je peux donner le chagrin, il donne un chant. C'est ça la grâce de recevoir. En acceptant que Dieu a permis nos souffrances pour se révéler à nous, et en donnant nos soucis à lui, c'est alors qu'on peut simplement accepter et recevoir sa grâce, sa joie, tout ce qui est bon. de lui. Au lieu de la peur, il y a la paix. Au lieu du langueur, il y a des louanges, la grâce. Mais on veut faire lien avec le dernier point. Parce que oui, tout ça est bon. OK, on voit qu'elle a trouvé l'allégresse, la joie, elle a reçu la grâce de Dieu. Et oui, même elle a eu ses fils, son fils, mais aussi en chapitre 2, verset 21. « Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. » Elle a reçu la grâce de Dieu, la grâce de sa compassion. Il y avait compassion d'elle, mais ce n'était pas juste que « Oh, elle a vécu des choses souffrantes, oh, on va donner la compassion. » C'était à cause qu'elle a reconnu sa besoin. Elle a reconnu la bénédiction parce que c'est exactement les épreuves qui l'a poussée vers lui. Et c'est exactement dans la prière qu'elle a su la grâce de Dieu. Mais finalement, réjouissez-vous de la vérité de sa compassion. C'est pas juste un génie qu'on frotte la lampe pour recevoir ce qui est bon. C'est tout relationnel. Sa compassion, c'est relationnel. On va lire dans chapitre 2. On va voir, c'est un cantique, une prière prophétique même de Anne. Et on va voir, je vais expliquer par la suite, mais on peut voir qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur à travers la souffrance, le fardeau, à travers le besoin de prier, la prière qu'elle a eue au pied du Seigneur, mais aussi de recevoir sa grâce. Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie? Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne un partage, un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes et la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront réduits au silence, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Des hauts des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son roi. Wow! C'est ça qui est sorti de Anne. Après ça, je pense qu'elle a compris quelque chose de Dieu. Je pense qu'elle a rencontré, elle a découvert Dieu. C'est ça le but. Oui, elle a vu, t'as dit, elle a vu? Elle a vu Dieu. C'est ça, la vérité. C'est pas juste, oh, des bonnes choses de recevoir, des cadeaux de Dieu, des dons de Dieu, des bénédictions, mais c'est de le connaître dans la vie. C'est ça, la vérité. Il est la compassion. Il se trouve en lui, en ayant une relation proche avec lui. Le but, c'est qu'on le découvre dans les épreuves. C'est relationnel. Tout ce qu'on voit de sa compassion, ce n'est pas juste qu'il voit quelqu'un qui est dans le besoin, puis OK, on va lui donner quelque chose pour lui aider dans ses affaires-là. C'est qu'il a compassion de nous, d'avoir la relation. C'est ça, la vérité de sa compassion. C'est lui, ça se trouve en lui. On a vu dans Matthieu 9 qu'il fut ému de compassion, pas parce qu'il n'y avait pas quelque chose à manger. Peut-être on peut tourner là, puis par la suite on va tourner dans Jean 6 pour faire le lien avec l'étude en Jean qu'on fait. Mais Matthieu 9, Matthieu 9, verset 36, quand ça dit, on a recité le verset tantôt. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Pas parce qu'il n'avait pas quelque chose à manger. Pas parce qu'il y avait des aveugles, des maladies. Pas à cause de tout ça, mais il fut ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il n'y avait pas la relation avec leur Dieu. Parce que dans le contexte, il dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Pas pour donner du pain au monde, pas pour donner des bénédictions, des choses physiques, mais pour donner la connaissance de Dieu. C'est ça, sa compassion, d'avoir la relation avec lui. Même dans Jean 6, maintenant, on va voir en Jean 6, semaine passée, Pasteur Roy a prêché sur les 5 pains et 2 poissons, puis le miracle qu'il a fait. On va lire en verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, c'était la multiplication des pains. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. OK, c'est bon, ils cherchaient Jésus, mais pourquoi? Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous pensez de vos estomacs, comme beaucoup d'hommes, n'est-ce pas? » Il dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui qui le Père que Dieu, c'est lui qui le Père que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » C'est ça la compassion. OK, vous avez mangé du pain, c'est bon. Je vais skipper vers la fin, parce qu'il y a la discussion, il continue à demander, « OK, vous croyez en celui qui l'a envoyé? » Puis il demande, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? » Il parle de la manne que Moïse a donnée dans le désert. Jésus dit, « C'est pas Moïse qui vous a donné le pain. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Car le verset 33 maintenant. « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Ils pensent toujours au miracle que Jésus a fait pour manger, pour des besoins physiques. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est ça que, ici, dans le texte de Jean 6, il manquait. Que la vérité, pour faire le lien avec 1 Samuel 1, c'est pas juste qu'il y a des besoins de rassasier les besoins physiques, mais de le connaître. De connaître le pain de vie, de connaître Jésus. Puis on voit dans 1 Samuel 2 à quel point Anne, elle a vu, elle a compris. C'est ça, la grâce et la vérité, la compassion de la grâce et la vérité d'avoir cette relation vivante avec Jésus. Dans chaque moment où est-ce que les Israélites étaient jugés par des nations, étaient amenés en captivité par les Babyloniens, Jésus a eu compassion d'eux. Mais on voit un verset, on va lire 2 Chroniques 30. On voit ici le fait que la vérité, c'est pas que Jésus voit les souffrances puis OK, il va avoir compassion. La compassion, c'est relié à son personne, à cette relation. 2 Chroniques 39, « Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. » Ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. C'est ça, la vérité de sa compassion. Que ça se trouve en lui, en relation avec lui. On a cité ce verset dans la prière ce matin, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais j'avais un professeur au collège qui disait, ne jamais réciter verset 28 sans disant aussi verset 29. OK, toute chose concourt au bien. C'est quoi le bien? C'est dans verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Toute chose concourt au bien. Toute épreuve, tout fardeau, toute tribulation dans nos vies concourt au bien parce que le bien, c'est que ça nous transforme à l'image de son Fils. Ça nous attire vers Dieu. C'est ça, la vérité. Il y a compassion de nous, pas juste pour nous aider dans nos épreuves, mais pour nous faire le découvrir dans nos épreuves. Alors, pour terminer ce matin, pour amener l'appel, avez-vous approfondi en votre relation avec Dieu dans la souffrance? Avez-vous reconnu que les choses qui vont mal dans votre vie, ce n'est pas parce que Dieu ne s'en soucie pas de ça, mais ce Dieu a permis, ça disait deux fois qu'Anne était stérile par l'Éternel. Mais à quel point dans le chapitre 2, ça valait la peine? Parce qu'elle a trouvé Dieu dans sa vie. Avez-vous expérimenté la compassion de Jésus? Pas en recevant, oui, on reçoit sa grâce qu'on a vue, on reçoit des réponses, mais aussi la vérité de le connaître. La compassion qui est en lui. J'espère que tout le monde ici qui est sauvé, et j'espère que tout le monde ici est sauvé, mais n'est-ce pas, pour certains, c'était l'épreuve qui nous a dirigés vers Dieu. C'était pas juste que, OK, ben je pense que c'est une bonne chose, je vais trouver Dieu, je vais l'essayer. Mais à quel point? C'était à cause des choses qui vont mal qu'on trouve que, hey, ouais, ça fait du sens. Pas parce que ça va bien, mais parce que, hey, Dieu l'a permis pour qu'on découvre. Encore, je parlais, la mort de Jésus n'avait pas de sens sans le péché. Alors, à cause des souffrances qu'on voit dans la vie, ça nous pousse vers, oui, ça va mal, mais Jésus est mort à cause de ça, pour nous sauver de ça, sa compassion. Je vais terminer avec ces versets en Philippiens, chapitre 3. Paul ici, il parlait de ses gains. Tout ce qui était bon pour lui. Si quelqu'un avait quelque chose pour vanter, pour dire « je suis donc bien super bon », c'était Paul. Parce qu'il était aux yeux du monde, il était parfait. Il était un juif de la race de Benjamin, il était un pharisien, il suivait la loi parfaitement, il y avait tout ce qu'on pourrait demander, on pourrait vouloir. Mais il dit dans verset 7, « Mais ces choses qui mettaient un gain, je les ai regardés comme une perte à cause de Jésus. Bien plus, je regarde toute chose comme une perte, en comparaison à de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toute chose, et je les regarde comme de la boue, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. » Verset 10, c'est tellement important, je le cite dans l'Ostreval parce que ça donne plus l'idée « afin que je connaisse Christ ». Toutes ces choses sont une perte afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. On parlait des souffrances, on est conforme, en devenant conforme à lui dans sa mort. Et on pourrait même prêcher un message de ce passage, n'est-ce pas, à quel point d'avoir la communion de ses souffrances, devenant conforme à lui, comme Romains 8, 29, d'être transformé à l'image de son Fils par les souffrances, c'est quoi le but? De le connaître. Alors, avez-vous connu Jésus, la vraie compassion? On vit tous des épreuves. Il y a certains que on est au courant dans l'Église, il y a certains, toujours il y a des épreuves, des choses dans le cœur qu'on ne connaît pas, que juste Dieu le connaît. C'est bien correct comme ça. C'est pas qu'on veut savoir tous les problèmes dans la vie, mais est-ce qu'on va vers Jésus? Est-ce qu'on se laisse pousser vers Dieu à cause des souffrances pour le découvrir, pour recevoir, pour expérimenter la compassion de la grâce et la vérité de Jésus? Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le message.